La repentance. Nous lisons en Genèse chapitre 1 verset 2.
Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux.
Comme tout ce chapitre, ce verset n'a pas seulement une signification littérale. Il nous présente aussi l'œuvre du Saint-Esprit s'occupant d'un homme dont le cœur est aux yeux de Dieu désolation et vide. Dieu a créé l'homme en pureté, mais celui-ci s'est détourné de Dieu et a servi Satan. Dans toutes les circonstances, que ce soit sans gouvernement ou avec, sous la loi, sous la royauté, etc., l'homme a prouvé qu'il ne voulait pas servir Dieu. Et lorsque, dans son amour,
Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur faute, de Corinthiens 5, verset 19.
Ils le rejetèrent et crucifièrent le Seigneur Jésus. Ainsi l'homme a donné la preuve qu'il était désolation et vide. Il n'y avait rien en lui d'agréable pour Dieu. C'est de tels hommes que le Saint-Esprit s'occupe. Dans le chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, nous apprenons du Seigneur Jésus que son départ était avantageux pour les disciples, car alors le Saint-Esprit viendrait sur la terre. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché, et de justice, et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me voyez plus. De jugement, parce que le chef de ce monde est jugé, versets 8 à 11. Tout homme a péché et, devant le grand trône blanc, chacun de ceux qui y comparaîtront sera jugé selon ses œuvres. Lorsque le Seigneur Jésus a été rejeté, tout le monde s'est ligué contre lui. Les Sadducéens se sont unis aux pharisiens, les docteurs de la loi au peuple qu'il maudissait parce qu'il ne connaissait pas la loi, les sacrificateurs à Pilate, les soldats romains aux deux malfaiteurs crucifiés. La culpabilité commune de l'humanité a été manifestée en ce qu'ils ont concouru tous ensemble à ce forfait. Les conducteurs religieux et civils se sont rendus au désir du peuple et tout a été mis en œuvre pour repousser et faire périr l'envoyé de Dieu, pur et saint, qui ne connaissait pas le péché. Non seulement chaque homme individuellement était un pécheur, mais le monde, la société humaine organisée, était foncièrement méchante.
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise, Jean 1, verset 5. Ils ont et vu, et haï, et moi, et mon Père, Jean 15, verset 24.
Le Seigneur Jésus a ainsi été cloué à la croix et mis à mort par la main d'hommes iniques. Acte 2, verset 23.
Ayant été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu, lui, vous l'avez cloué à une croix, et vous l'avez fait périr par la main d'hommes iniques.
Mais d'un autre côté, il est venu volontairement pour faire la volonté de Dieu et pour glorifier le nom de Dieu, et, par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu sans tache. Hébreux 10, verset 9 et 9, verset 14.
Hébreux 10, verset 9. Alors il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il ôte le premier afin d'établir le second. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant? Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 2, verset 24.
Mais en outre, ou plus exactement en premier lieu, il a glorifié Dieu à la croix. L'homme avait nié et l'amour et la vérité et la justice et la sainteté de Dieu en croyant les assertions de Satan selon lesquelles Dieu voulait priver l'homme d'une chose bonne pour lui et que manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'aurait pas des conséquences telles que Dieu l'avait dit, mais que, au contraire, l'homme deviendrait comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la patience de Dieu, qui a repoussé le jugement dans son complet déploiement, a été interprétée comme une preuve de la vérité des assertions de Satan. 2 Pierre 3, verset 4.
Où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent au même état dès le commencement de la création.
Maintenant apparaît un homme dont le principe de vie consistait dans l'obéissance et la consécration à Dieu, et dont Dieu pouvait dire qu'il avait trouvé son plaisir en lui. Celui-ci s'offre lui-même pour subir la mort d'un esclave sur la croix. Oui, la mort sous le jugement de Dieu, afin de glorifier le nom de Dieu. Il est la victime parfaite, car il était parfait en lui-même, mais aussi il était celui qui s'offrait parfaitement. Il s'offrait lui-même d'une manière parfaite. Il était l'Holocauste, un parfum agréable pour l'Éternel. Combien Dieu a été glorifié par ce sacrifice ? Peut-il y avoir une preuve plus grande de l'amour de Dieu que celle-ci que Dieu a donné son Fils unique pour des pécheurs perdus? 1 Jean 4, versets 8 à 10.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour. Non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima, et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés.
Romains 5, verset 8.
Mais Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, et qu'il ait la vie éternelle.
La vérité de Dieu et sa justice inexorable pouvaient-elles briller d'une manière plus glorieuse que lorsqu'il fit tomber tout le jugement contre le péché sur celui en qui il avait trouvé son plaisir, mais qui, alors, prenait volontairement la place de pécheur perdu? Est-ce que la sainteté de Dieu, la lumière en laquelle il n'y a aucune ténèbre, 1 Jean 1, verset 5, pouvait se manifester d'une manière plus claire que là où le Seigneur Jésus, qui avait pu dire
« Je fais toujours les choses qui lui plaisent », Jean 8, verset 29,
et
« Or moi, je savais que tu m'entends toujours », Jean 11, verset 42,
dû s'écrier
« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
et
« Tu m'as mis dans la poussière de la mort », Matthieu 27, psaume 22, parce qu'il avait pris sur lui nos péchés. Certes, Dieu a été glorifié à la croix comme il ne l'avait jamais été avant, et plus que si Adam n'était pas tombé. Dieu pouvait-il laisser dans le tombeau cette personne glorieuse? Il l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné une juste récompense, une place à sa droite. Ainsi la justice de Dieu se manifestait à nouveau, mais maintenant aussi d'une manière manifeste pour le monde. Il ne peut pas nier ce fait.
Quelle était la position de Satan? Il était le grand contradicteur de Dieu et cherchait à anéantir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il tenta dans le désert le Seigneur Jésus, lui offrant même la domination du monde s'il lui rendait hommage. Mais lorsqu'il vit que toute sa ruse n'avait aucune prise sur la sainteté et la dépendance du second Adam, il essaya par sa puissance. Il rassembla le monde entier dans tous ses éléments, et ceux-ci ne se laissèrent que trop volontiers diriger par leur chef, comme cela se produira aussi plus tard. Apocalypse 20, verset 8.
Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer.
Le Seigneur Jésus s'étant livré lui-même, Satan parut avoir la victoire. Sa puissance semblait avoir vaincu le prince de la vie. Hébreux 2, versets 14 et 15.
Puis donc, que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que, par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude.
Ses desseins sont devenus manifestes. Il a révélé à Golgotha toute sa méchanceté et déployé toute sa puissance, mais il a subi une défaite, car le Seigneur est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Le prince de ce monde est jugé. Tel est le témoignage du Saint-Esprit envers le monde, comme le Seigneur l'a aussi rendu quand il était sur cette terre. Jean 7, verset 7.
Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait, parce que moi je rends témoignage de lui que ses œuvres sont mauvaises.
Triple témoignage qui parle d'une manifestation parfaite. Le Seigneur Jésus ne dit cependant pas que le Saint-Esprit prêcherait au monde. Sa présence sur la terre est la preuve de ces trois choses et convaincra le monde de la justice du jugement de Dieu qu'il subira bientôt. Cependant, nous trouvons que le Saint-Esprit s'occupe aussi des personnes individuellement. Sa première œuvre est de placer ces trois choses devant leurs yeux. Il montre aux hommes le péché dans toute son horreur, avant tout, comme aussi il se manifeste dans le rejet du Seigneur, afin d'atteindre la conscience et d'amener l'homme à réaliser son état de perdition. Sans cela, aucun salut n'est possible. L'homme doit être conscient de son péché et reconnaître qu'il est perdu et ne peut subsister devant un Dieu saint et juste. Puis le Saint-Esprit rend témoignage de quelque chose d'autre. Il montre que l'œuvre de la réconciliation a été accomplie et que Christ a été livré pour nos fautes, de sorte que Dieu peut, en vertu de cette œuvre, pardonner les péchés de tous ceux qui croient à ce sacrifice et sont ainsi un avec lui. Et il est ajouté qu'il a été ressuscité pour notre justification, Romains 4, verset 25, c'est-à-dire que la valeur de l'œuvre du Seigneur Jésus est imputée à celui qui se l'approprie par la foi.
Romains 4, verset 25, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification.
Si la justice de Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus de la mort dans laquelle il est descendu pour nos péchés, donnant ainsi la preuve que l'œuvre de la réconciliation est accomplie et que les péchés sont expiés, la même justice nous placera sans péché comme justifiés devant Dieu. Enfin, le Saint-Esprit montre la troisième chose, le jugement définitif qui ôtera d'une manière judiciaire tout ce qui est en opposition à Dieu. Ces trois choses sont placées devant nos yeux dans la première prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte, en Actes 2, versets 23 et 24 et 38 à 40.
Actes 2, versets 23 et 24. Ayant été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu, lui, vous l'avez cloué à une croix, et vous l'avez fait périr par la main d'hommes iniques, lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et Actes 2, versets 38 à 40. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car à vous est la promesse et à vos enfants. Et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse.
Et le glorieux résultat de cette œuvre du Saint-Esprit a été la conversion de 3000 âmes.